Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Après l'émotion, la réaction, celle de l'État qui promet des mesures concrètes et rapides.
Contrôle des réseaux sociaux, sécurité autour des écoles, expulsion d'un certain nombre de radicalisés. On va tout vous détailler dans un instant. Nous partirons également sur les traces du terroriste à Évreux où personne n'est véritablement surpris par son passage à l'acte. Dans ce journal également, la Minute américaine, notre nouveau rendez-vous à 15 jours du scrutin. Et puis l'Auvergne, région super tendance, conséquence inattendue du confinement.
RTL Matin.
11 personnes sont donc toujours ce matin en garde à vue, près de 3 jours après la décapitation de Samuel Paty. Nous reviendrons dans un instant sur les hommages au professeur et sur les nombreuses questions ce matin. Mais d'abord, le profil de son assassin, Abdullah Anzorov, 18 ans, un Tchétchène né à Moscou, qui n'était pas suivi comme étant radicalisé. Pourtant, Julien Caillard, à Évreux, dans l'heure où il vivait, son profil ne semblait faire aucun doute.
Oui, dans ce quartier de la Madeleine, ceux qui ont côtoyé l'assaillant sont formels. Le jeune homme était sombre, fermé comme sa famille.
Ils vont pas vers les gens, c'est comme si vraiment on n'était pas là, ils vont pas nous regarder, rien du tout.
Cette jeune voisine de 18 ans n'a d'ailleurs jamais noué de relation avec l'assaillant.
On n'est pas vraiment proche, c'est quelqu'un qui ne parle pas aux gens. Tout le temps, il passait, faisait des allers-retours seul, pas de bonjour, pas rien. Il est un peu solitaire. Il a une tête d'énervé. C'est un gars très respecté ici. Enfin, c'est quelqu'un qui t'impressionne quand tu le vois. Il s'est déjà battu avec quelqu'un, il a déjà montré de quoi il était capable. Beaucoup de personnes sont impressionnées par lui dans le quartier.
Ici, certains évoquent aussi un jeune homme enfermé dans la religion. Sur ce point, cette voisine se veut plus nuancée.
Pas très très religieux, enfin, il ne montrait pas de là à dire que Al-Qaïda ou Allahu Akbar, tout ça. Il croit juste en Dieu.
Reste qu'un enseignant du quartier se souvient. Petit déjà, le garçon avait un agenda truffé d'écrits religieux. Son comportement était effrayant. Cet enseignant qui conclut qu'il ait pu commettre cet acte me choque. Mais ne me surprend pas.
Choqué, mais pas surpris, Julien Caillard. Émotion nationale hier, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Paris et partout en France. Dans la capitale, la place de la République était noire de monde.
La peur va changer de camp, a déclaré hier soir Emmanuel Macron. Après les hommages, le chef de l'État promet des réponses à la hauteur.
À la hauteur du choc et de l'effroi suscité par cet énième attentat islamiste, un conseil de défense s'est tenu hier soir à l'Élysée. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Premier acte très concret ce matin, une opération de contrôle qui va concerner 80 personnes accusé d'avoir publié des messages de soutien aux terroristes juste après l'attentat.
Oui, des posts repérés sur Twitter où l'assaillant a revendiqué son acte. Mais pas seulement, tous les réseaux sociaux sont concernés. Les policiers ont travaillé d'arrache-pied ce week-end pour identifier les adresses IP et les adresses physiques des auteurs. Autre mesure ordonnée cette fois-ci par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'accélération des expulsions d'étrangers en situation irrégulière et fichés pour radicalisation à caractère terroriste. Plus de 400 ont été renvoyés depuis 2017. Il en reste à peu près le même nombre. Avec cette difficulté, certains sont inexpulsables, notamment ceux qui viennent de pays en guerre. On n'expulse pas vers la Libye, par exemple. D'autres sont en prison et doivent finir leur peine. Enfin, pour certains, leur pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Un travail diplomatique sensible doit donc être mené, notamment avec le Maroc et l'Algérie, où le ministre se rend le 25 octobre. Une remarque toutefois sur ces annonces, aucune ne concerne réellement le cas du jeune terroriste d'origine tchétchène, car il était réfugié politique, venu de Russie avec sa famille il y a quelques années, en situation régulière donc, et ni lui ni ses parents n'avaient été repérés par les services de renseignement.
Alors, autre difficulté Thomas, le cas de ces prêcheurs de haine, on va les appeler comme ça, qui ont largement participé par leurs appels, par leurs vidéos, au lynchage du professeur. Contre eux aussi, l'État se veut inflexible.
Oui, au premier rang, un imam bien connu des services de police, Abdelhakim Sefrioui, 61 ans, un militant pro-palestinien, soutien des islamistes du Hamas et coutumier des actions coup de poing pour la défense des tenues musulmanes dans les lycées publics, contre le sionisme d'Israël. Le franco-marocain a toujours flirté avec la légalité et n'a jamais pu être condamné. Il est simplement fiché S et son association, le Conseil des imams de France, structure confidentielle et intégriste, n'existe pas légalement. Difficile donc de la dissoudre. Il est en garde à vue depuis vendredi. C'est la justice antiterroriste qui va donner la première réponse après-demain en décidant ou pas de le mettre en examen.
On comprend l'immensité de la tâche. Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Le gouvernement a par ailleurs annoncé un renforcement de la sécurité autour des établissements scolaires, une mesure indispensable, estime cette enseignante. Manon défilait hier à Toulouse. L'histoire de Samuel Paty, c'est un peu la sienne.
A posteriori, je me rends compte que j'ai dit des choses, j'ai partagé des choses qui pourraient peut-être être mal interprétées et qui pourraient me mettre en danger, oui. Je me rends compte que, bon, toutes les discussions sur l'homosexualité, toutes les discussions sur les religions, oui, en effet, je me rends compte que finalement, on veut tous être en danger. Et que c'est affreux de se dire qu'on doit réfléchir à tout ce qu'on dit avant de le dire.
Un témoignage recueilli par Patrick Hisson.
La crainte de cette enseignante accentuée et amplifiée par le rôle des réseaux sociaux, largement pointée du doigt depuis vendredi.
Ouais, Facebook, Twitter, déversoir sans filtre de toutes les haines et instruments favoris, on le sait, des islamistes. Le profil du terroriste avait d'ailleurs plusieurs fois été signalé depuis cet été. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Du service politique de RTL. Marlène Schiappa convoquera demain, place Beauvau, les patrons de ces géants du net, sommés désormais de s'expliquer.
Oui, YouTube, Facebook, Twitter, attendus demain au ministère de l'Intérieur. Les réseaux sociaux ont une responsabilité dans cette affaire, accuse le gouvernement. Mais que faire ? Dans les prochaines heures, on l'a évoqué, 80 personnes qui ont posté des messages de soutien aux terroristes des Yvelines vont recevoir les policiers ou les gendarmes. Mais c'est une mesure d'urgence impossible à généraliser. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque message posté. En fait, l'exécutif se heurte encore et encore au même mur. Comment lever l'anonymat en ligne ? La majorité a déjà tenté de s'attaquer au problème avec une proposition de loi qui donnait une heure aux plateformes pour effacer les contenus jugés terroristes. Cette loi, la majorité veut la remettre sur la table avec une nouvelle version. Pour l'instant, elle a été taillée en pièces par le Conseil constitutionnel. Ironie de l'histoire, justement parce qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression.
William Galibert pour RTL.
Et nous continuerons évidemment d'évoquer cet attentat et ses conséquences. Encore beaucoup de questions à soulever. À 8h20, Yanis Roder, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation, sera notre invité dans ce studio. Direction les États-Unis dans un instant. Comprendre les enjeux de la présidentielle, c'est notre Minute américaine. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Le compte à rebours est donc lancé. La présidentielle américaine, c'est dans 15 jours.
RTL, la minute américaine.
Et l'occasion pour nous, chaque matin dans le journal de 8h, de nous arrêter sur l'un des aspects de cette élection si particulière. Une minute pour tout comprendre avec Philippe Corbet. Bonjour.
Bonjour Dominique.
Ce matin, ce paradoxe américain, le candidat qui remportera le plus de voix ne sera pas forcément celui qui sera élu à la fin. Expliquez-nous Philippe.
Oui, parce que les Américains ne votent pas directement pour leur président. Ils votent État par État pour désigner des grands électeurs qui, eux, seront chargés d'élire le président. Or, dans presque tous les États, le candidat qui arrive en tête recueille tous les grands électeurs de l'État. Et c'est comme ça qu'en 2016, Trump a battu Clinton malgré près de 3 millions de voix de retard au niveau national. Il a obtenu une majorité de grands électeurs grâce à trois États qu'il a gagnés avec moins de 70 000 voix en tout, Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie.
Est-ce que ça change, Philippe, la manière de faire campagne?
Oui, par exemple, ils ne perdent pas leur temps à aller faire des réunions publiques en Californie, l'État le plus peuplé qui vote généralement démocrate. Les candidats concentrent toute leur énergie, leurs moyens aux États qui pourraient basculer, les États clés, donc les trois que j'ai cités, plus la Floride, la Caroline du Nord, l'Arizona, quelques autres. Les téléspectateurs y sont bombardés de pubs électorales. Ces jours-ci, l'équipe Trump, distancée dans les sondages, avec beaucoup moins d'argent, doit faire des choix stratégiques, renoncer à tel ou tel État pour concentrer ses efforts sur ceux où il a le plus de chances.
Décryptage signé Philippe Corbet, correspondant de RTL aux États-Unis.
Et nous allons partir maintenant en Auvergne. Dominique, pour terminer ce journal, la région confrontée à un boom inattendu de l'immobilier.
Inattendu et inespéré. Beaucoup ont en réalité découvert la région cet été, un peu forcés et contraints de passer leurs vacances en France, et en sont finalement tombés amoureux. C'est le cas de cette famille que vous avez rencontrée, Guillaume Frixon.
Oui, ils ont tout quitté avec leurs trois enfants. Ce couple de trentenaires a laissé la Normandie et parcouru 600 km pour s'installer il y a quelques mois à Olliergues, un petit village de 700 habitants. Dans le Puy-de-Dôme, Lucie et son mari sont même devenus propriétaires d'un camping.
Dès qu'on est arrivé, les commerçants sont très accueillants, on sympathise très rapidement avec tout le monde, chose qu'on n'avait pas forcément en Normandie.
Quand on est arrivé, l'environnement nous a bien plu. Et puis ensuite, à un moment donné, on avait 36 ans, on se dit que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais.
Et pour de nombreux maires de la région, le constat est toujours le même, le milieu rural est prisé comme jamais. Arnaud Provenchère est le maire d'Olliergues, dans le Puy-de-Dôme.
Ah oui, c'est du jamais vu, 19e vente signée hier, au lieu de 4-5 par an.
Ils viennent d'Annecy, de Paris, d'Aix-en-Provence, ils sont actifs ou retraités. Les nouveaux acquéreurs ont tous les profils, attirés par le cadre de vie et le coût de l'immobilier.
Il y a des maisons qui ont pu se vendre autour de 10 000 euros. L'exemple qui avait été donné par une famille du Vaucluse qui disait que à 10 000 euros, ils avaient un parking. À 10 000 euros, ils ont acheté une maison avec des travaux.
Alors si les professionnels du secteur se disent débordés, nul ne sait vraiment combien de temps cette euphorie immobilière va durer.
Un reportage de Guillaume Frixon. Un mot de football pour vous dire que Lille est le nouveau leader de la Ligue 1 après sa victoire écrasante hier soir face à Lens, le LOSC, qui remporte le derby du Nord 4-0.
C'était le journal de Dominique.